Wow, 1 an, ça fait déjà 1 an que je me suis lancée en freelance, que j'ai sauté dans le grand bain de l'entrepreneuriat. Alors je pense que c'est le bon moment pour faire un bilan. Et aussi pour vous parler de mes projets et de l'évolution de mes services pour la nouvelle année qui commence. Je pense que c'est pas un exercice facile de prendre du recul, mais ça va clairement m'aider à avancer et à poser des nouvelles bases. J'espère que vous serez ravis d'écouter ce nouvel épisode du podcast Le Brief. Le podcast qui vous aide à améliorer les contenus de votre site web pour inciter vos utilisateurs à passer à l'action. Autant que j'ai pris plaisir à le réaliser. Mais avant, on va faire un petit bond dans le passé. Pourquoi je me suis lancée dans l'entrepreneuriat? Je ne sais pas si je suis prête en fait à me prétendre entrepreneur. J'ai envie de l'être entrepreneur, j'ai envie de l'être pleinement et je pourrais probablement le dire au prochain bilan en 2021. Mais pour l'instant dans ma tête, je suis encore une baby freelance. Et en fait, j'ai jamais vraiment pensé à entreprendre. J'ai pas du tout grandi dans un milieu d'entrepreneurs. Hormis au fait, au final, mon frère s'est isolé en Bretagne profonde pour monter sa ferme. Mais voilà, j'ai pas du tout grandi dans un milieu d'entrepreneur. Et au lycée, et même à la fac aussi, ce qui est assez surprenant au final avec du recul, j'en ai jamais entendu parler. J'ai jamais entendu d'entrepreneuriat et de la possibilité de créer sa propre boîte. Et je trouve que c'est vraiment, vraiment malheureux. Donc j'ai clairement suivi un parcours très classique. Donc un bac S, en internat dans un lycée privé et c'est vrai qu'au final c'était parmi mes meilleures années de vie et qui était très très formatrice. Donc mettez vos enfants en internat. Ensuite j'ai fait 2 ans de première année de médecine mais finalement j'ai aucun regret, c'était clairement pas fait pour moi. J'aurais peut-être sans doute aimé être ostéopathe si j'avais connu le métier à l'époque. Mais au final je pense que cet échec, même s'il m'a attristée sur le moment et au final que j'ai zappé plutôt vite, on va dire, cet échec, il a, je pense, déclenché inconsciemment une prise de conscience, justement. Mais je ne le savais pas encore à l'époque. Ça a été vraiment un long cheminement de plusieurs années. Ensuite, j'ai atterri dans une fac en santé, donc pour finalement obtenir un diplôme de management des établissements de santé. Et les années scolaires passant, avec le recul, avec mes différentes hésitations au sujet de mon orientation, un coup je voulais aller faire psy, un coup je voulais passer un concours d'orthophoniste, un coup ostéopathe, enfin bref. Je pense qu'avec le recul, j'étais pas vraiment à ma place dans ces études-là. Mais clairement, l'indépendance sans responsabilité, la vie lilloise, les potes que l'on retrouve sur les bancs de la fac, les expériences, ça a été des super belles années. Et en même temps, à cet âge-là, début de la vingtaine, même pas encore 20 ans, clairement, on expérimente, on apprend à se connaître. Et à savoir ce qu'on veut, et moi ça m'a pris quand même du temps, et j'ai fait la paix avec ces 10 ans, je pense, 10 ans, où j'avais l'impression de ne pas avancer, où j'avais l'impression de ne pas savoir ce que je voulais dans ma vie pro, et je m'en suis voulu, j'ai eu du mal à l'accepter, au final, peut-être à 28 ans, il me semble que c'est à 28 ans, j'ai compris que ces années-là étaient des années de construction, même si on construit toute une vie, mais voilà, j'ai accepté que ça a été la construction de soi, un peu comme si on se cherchait dans l'adolescence. Ben moi ça a été plutôt dans la vingtaine, et j'ai finalement compris aussi que le diplôme c'était pas vraiment important, que j'avais ensuite toute la vie devant moi pour faire ce que je voulais. C'est pas le diplôme qui va définir mes 40, 50, peut-être 60 ans de carrière. Donc voilà, c'était pas du tout important pour moi et je l'ai accepté. Et comme le dit ma mère sur ma personne, je suis toujours retombée sur mes pattes, on va dire. Donc en 2014, j'ai eu mon diplôme et je me souviens vraiment, ça a été comme une délivrance, un sentiment de délivrance, de liberté, associé à, je me disais, je peux enfin mener la vie que je veux. J'avais l'impression que toutes les portes m'étaient ouvertes et que je pouvais décider vraiment de ce que je voulais. Sauf qu'à ce moment-là, je ne savais pas forcément trop ce que je voulais. Je ne sais pas pourquoi ça m'a fait ce ressenti-là. Je pense que je me suis mis une pression. Mes parents, mon entourage n'ont jamais été justement à me mettre la pression, à me dire « vaut mieux que tu fasses ci, ça, ça », même si la sécurité de leur enfant, c'était important pour eux, et je pense comme tous les parents. Je pense que je me suis mis en fait une pression toute seule en pensant qu'il fallait que je fasse ce qu'on attendait de moi. Et ça, on va dire que c'est l'une des caractéristiques de ma personnalité, me mettre la pression toute seule en fait. Faudrait peut-être que je travaille là-dessus. mais du coup, après ce diplôme, j'ai enchaîné les jobs tout aussi classiques. Beaucoup trop classiques à mon goût. Je vous passe les détails, mais en gros, de 2014 à 2019, j'ai eu 3 jobs différents dans la santé. Et entre eux, une période de 6 mois de chômage. Inconsciemment voulu, je pense, c'était j'ai mis fin à un CDD. Il me semble que c'était un CDD et j'ai pas souhaité en fait poursuivre parce que j'avais envie d'entreprendre, de créer quelque chose. C'était des jobs qui, généralement, le mode de management ne me correspondait pas. C'est vrai que suite au diplôme, entrer dans le monde du travail, ça a été une vraie désillusion, comme je pense beaucoup de jeunes. Et j'ai eu une grosse claque à 25 ans. D'ailleurs, j'ai fait une petite dépression d'un mois au fond du lit. J'avais vraiment envie de créer quelque chose. J'avais vraiment envie d'accomplir et de me dire que dans quelques années, je regarde derrière moi et j'ai construit quelque chose, j'ai fait quelque chose qui est utile au monde. Et puis aussi pour trouver ma place en fait dans ce monde et pourquoi je vis et c'est quoi le sens de ma vie. Ça, c'est quelque chose qui me caractérise beaucoup. Je me pose énormément de questions sur le sens de la vie, sur le sens que je fais, etc. Donc parfois, c'est très très fatigant, même souvent. Et je fatigue certains proches. Et donc j'avais envie de créer quelque chose. Et aussi, je me disais, mais j'ai pas envie de vivre en dehors de mon travail. J'ai pas envie d'attendre chaque soir et chaque week-end avec impatience, voire même la retraite, quand on entend les discours de certains. C'est vraiment pas une vie, ça. Et qu'est-ce que j'en ai eu des idées d'entrepreneuriat ? La première, je pense que c'était la toute première, c'était une idée de boutique de bijoux. Donc vraiment rien à voir avec mon domaine qui était la santé. Et puis les autres idées, c'était des tas d'idées d'applications, de logiciels, de services dans la santé. Toujours en espérant trouver la bonne idée. Chaque semaine, je me disais, ah, ça y est, je crois que j'ai la bonne idée et tout, je pourrais faire ci, ça, avec ce business model. Ah ouais, mais non, mais en fait, je pense que ça va pas le faire. Et puis, je me suis interrogée sur ce que je voulais personnellement, sur l'impact de ma vie pro, sur ma vie perso, si je voulais travailler le soir, les week-ends, telle heure à telle heure, si j'avais envie de bouger, de voyager, enfin voilà, je me suis vraiment interrogée sur ça et les différentes idées que j'avais eues ne correspondaient pas à mon envie de vivre, à la façon dont je voulais vivre personnellement. Entre deux, j'ai été bercée par les podcasts et les newsletters de personnes, d'entrepreneurs comme Antoine BM, Stanislas Leloup et Pauline Léniaud notamment. Si vous ne les connaissez pas, je vous invite vraiment à aller voir ce qu'ils font, à écouter ou à lire certains de leurs contenus. C'est hyper enrichissant, surtout quand on entreprend. Et de nouveau, j'ai compris. J'ai compris grâce à eux qu'il fallait que je me lance. Ça a été quand même 2-3 ans à me dire que ok, ouais, en fait, il faut juste que je me lance. J'ai développé des compétences, certaines compétences, notamment en communication, et je me suis dit, bah en fait, exploite ça, lance-toi, et après tu apprendras sur le tas. Au final, je pense que c'était surtout l'entrepreneuriat qui m'attirait, de monter un business avec mon cerveau et mes petites mains, de gagner chaque euro, bon, même si malheureusement ils vont pas tous dans ma poche, et de plus être managée, Surtout que mes expériences en management n'étaient pas folles. Je trouve qu'il y a du boulot à faire dans les entreprises, notamment entreprises françaises. Enfin bref, c'est pas le sujet. J'avais vraiment envie qu'on fasse appel à moi et non pas à une entreprise qui me mettrait à disposition auprès d'un client. Je voulais vraiment arrêter de vivre pour les week-ends, pour les soirs. Je voulais vraiment m'épanouir dans quelque chose qui fait sens pour moi. Je voulais une liberté d'horaire, de mouvement, de mobilité, pouvoir bouger où je veux, quand je veux, et une liberté de décision. Je voulais choisir avec qui j'allais travailler, sur quel projet. Et je voulais surtout que le travail ne soit plus synonyme de souffrance. Et surtout, je voulais juste kiffer. Donc il était vraiment temps que j'agisse, avec les compétences déjà à ma disposition, et puis après j'apprendrai sur le tas. Et qu'est-ce que j'ai appris en un an de temps ? C'est juste fou en fait. Je savais que j'allais apprendre, je savais que j'allais faire, expérimenter, apprendre des choses sur le business, apprendre des choses sur moi et m'épanouir, mais à ce point-là, waouh ! Et du coup, le 1er juillet 2019, ça m'a marqué clairement le début de ma vie professionnelle. Peut-être le début d'une nouvelle vie, oserais-je dire. Et j'ai encore les images en tête. Je me souviens encore de l'acceptation de ma rupture conventionnelle. J'étais vraiment surexcitée. Donc pendant ces un an, mon évolution, elle a été quand même assez importante, je trouve. Je pense que j'ai été plutôt rapide, parfois trop. J'aurais voulu pouvoir me poser, mais j'ai eu de la chance d'avoir des clients rapidement. J'ai commencé par faire de la communication, vraiment de façon globale, mais plutôt orientée digitale. J'ai appris ces compétences de communication plutôt en autodidacte, au travers de mes passions. J'aimais beaucoup écrire, notamment sur les blogs. J'avais un blog, enfin, je changeais régulièrement, mais voilà, ça m'a énormément appris sur les sites internet sous WordPress et l'écriture. Que j'ai tout le temps pratiqué en fait depuis que je suis toute petite et j'ai renoué en fait avec ma passion je pense de l'écriture. Donc c'est des compétences que j'ai apprises en autodidacte donc au travers de mes passions et qui ont été enrichies forcément au travers de mes expériences pro. Et comme j'avais un super réseau je trouve dans la santé, vu que j'y avais toujours travaillé, vu que j'avais rencontré beaucoup de monde, j'avais une connaissance forte de ce secteur et j'ai observé qu'il y avait vraiment un marché de dingue dans la santé en termes de communication. Les besoins de communication étaient et sont d'ailleurs toujours très forts. Donc je me suis dit, allez, mes compétences de com, j'apprends sur le tas en pratiquant, avec des bases forcément, et dans la santé, banco quoi, vas-y. Donc dès le premier mois de mon activité, dès le premier été, j'étais quasi full en fait. Et j'en vivais. Donc forcément, quand je dis ça, les plus curieux voudront certainement savoir combien j'ai gagné pendant cette première année de freelance. Et j'ai aucun problème avec là-dessus. Je trouve que vaut mieux être transparent sur ça, non pas pour se montrer, mais vraiment pour rassurer peut-être ceux qui m'écouteront, si jamais vous êtes un indépendant qui souhaite se lancer. Mais avant, un petit point qui a son importance, je vais parler uniquement de chiffre d'affaires et non pas de revenus nets dans ma poche. Donc à ce chiffre d'affaires, il faut retirer les cotisations sociales d'une micro-entreprise de l'ordre de 22%, il me semble, et plus 0,2% pour la formation. Il faut retirer les outils et services dont j'ai besoin pour pouvoir mener à bien mes missions en ligne, mais aussi mon matériel. Et que je peux malheureusement pas déduire, contrairement, enfin déduire entre guillemets, je sais pas quel est le vrai terme, donc je peux pas déduire de mon entreprise, contrairement à une société, donc vivement que je crée cette société. Il faut aussi déduire les formations, parce que forcément j'ai suivi des formations pour monter en compétences, donc je les ai payées. Faut déduire quelques investissements matériels, les déplacements et les déjeuners que j'ai pu avoir pour des rendez-vous clients ou prospects. Je dirais qu'il faut retirer à peu près 40% du chiffre d'affaires. Donc, j'ai réalisé, j'ai regardé sur mon logiciel de facturation tout à l'heure s'il ne se trompe pas, et j'ai été très très vigilante sur ça, sur remplir ce logiciel. Donc j'ai réalisé un chiffre d'affaires de 39 000 euros. 39 020 euros plus précisément, du 1er juillet 2019 au 1er juillet 2020. Donc je trouve que c'est vraiment pas mal du tout. Je mesure à quel point j'ai de la chance de ne pas avoir vraiment eu à prospecter grâce au réseau que j'avais et que j'ai, et d'avoir eu des clients aussi rapidement avec qui j'ai développé un partenariat à long terme. Ceux avec qui j'ai commencé, on travaille toujours ensemble. Mais pour moi, en fait, c'était clairement inconcevable de ne pas vivre de mon entreprise rapidement. C'était clairement inconcevable de dépendre financièrement de quelqu'un en attendant que mon activité décolle. Je pense que c'est peut-être mon côté femme indépendante. Donc voilà, je voulais vraiment que mon activité me permette de vivre correctement dès le départ. D'après moi, il n'y a rien de mieux que d'être niché dans un secteur d'activité avec une connaissance pointue de ce secteur, comme ça l'a été pour moi la santé. Parce que je comprends ce que disent mes clients, ou en tout cas je capte très vite. Je crois que c'est ce qu'ils apprécient le plus dans notre collaboration. Ma veille sur le secteur, ne pas avoir à m'expliquer des heures, pendant des heures les choses, ma compréhension des termes techniques et des différents acroniques, et bon Dieu, comme il y en a tellement des acronymes dans le monde de la santé et des termes méga techniques, et aussi forcément leur apporter des compétences et le temps en termes de communication qu'ils n'ont pas. Donc depuis un an, je bosse pour des associations professionnelles de santé, des entreprises qui commercialisent des logiciels, des applications, aussi une entreprise de maintenance de dispositifs médicaux, une mutuelle, une formatrice et un média, si j'en oublie pas. Et mes missions sont très 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 larges en termes de communication. Et d'ailleurs, je vous reparlerai après de... Je m'oriente en tout cas vers ça, c'est mon tournant, je vais vraiment me spécialiser sur une compétence particulière, mais en attendant, j'ai vraiment travaillé sur plein de missions très larges dans le domaine de la communication en santé. Ça allait de la définition de la stratégie de communication, du community management sur Facebook et sur LinkedIn, de la rédaction de newsletters, de la rédaction d'articles et de pages web, de la création et la refonte de sites web, de la formation d'équipes pour monter en compétence sur la création de contenu, de la réécriture et de la mise en forme de documents, et du montage de podcasts. J'adore d'avoir autant de missions, de choses à faire, mais petit à petit, j'ai délaissé la partie graphique, on va dire, tout ce qui est mise en forme de documents, de rapports d'activité, des flyers, des affiches, etc., que je fais généralement sur Canva, donc c'est pas du graphisme à proprement parler. Donc j'ai délaissé cette partie-là petit à petit pour me focaliser uniquement sur les contenus parce que c'est vraiment ce qui me stimule, on va dire, ce que j'aime le plus, travailler sur les contenus. Quand je remonte dans l'enfance, j'écrivais des sacrés romans de 4 pages en fait. Donc ça m'a toujours animée, l'écriture. Peut-être qu'un jour j'écrirai un roman un peu plus long de 300, 400, 500 pages, on va voir. Et j'ai tellement appris pendant cette année de freelance à faire tout ça. Et je sais aussi que je vais encore apprendre, et c'est ce que j'aime le plus, me dire que je vais encore expérimenter et encore apprendre pour encore grandir avec des missions, des projets qui font sens pour moi. Je sais que c'est cliché de dire « j'apprends tous les jours ». Mais tant pis, parce que c'est tellement vrai. Avec toutes les tâches, en faisant de nouvelles tâches, des nouvelles missions pour mes clients, j'apprends. Je monte en compétences. À chaque erreur, j'apprends. Avec mes clients, j'apprends à gérer un business et à mieux m'organiser. Et j'apprends énormément sur moi, sur ce qui m'anime, sur les choses sur lesquelles j'aime travailler, quand j'aime travailler et avec qui j'aime travailler. Donc c'est vraiment une source d'apprentissage, et moi, si je pouvais te payer à apprendre, ce serait génial. Donc concrètement, j'ai appris à gérer une petite entreprise. Bon, ok, le côté administratif en micro-entreprise, il n'est pas ouf, je le sais bien. Le jour où j'aurai ma société, je pense que je rigolerai de ce que je fais en micro-entreprise. Mais mine de rien, il y a eu toute la phase de création, de mise en place de mes services, de mes offres. Il y a quand même un suivi du chiffre d'affaires, une facturation aussi à tenir. Tout ce qui est devis aussi, la tenue des comptes, du registre, et j'ai tenu aussi à avoir un compte pro. Enfin voilà, il y a quand même pas mal de petites choses que j'ai apprises. Et j'ai beaucoup appris à m'organiser. Je pense avoir trouvé la méthodologie qui me correspond pour remplir mes missions et tenir mes délais. Je développe aussi forcément chaque jour mes compétences, donc j'apprends beaucoup en termes de savoir-faire, donc par la pratique. En pratiquant tous les jours, en me formant aussi forcément, et notamment en rédaction web et en community management. Généralement, je dis oui, même si je sais à peu près faire, j'apprends sur le tas, je pratique, et généralement, en creusant, on y arrive. J'ai aussi fait de super belles rencontres dans la vie de tous les jours, enfin, souvent virtuellement. Qui m'enrichissent donc des rencontres de mes clients, mais aussi des rencontres de freelance qui partagent les mêmes obstacles et aussi la même ferveur de rendre service, d'entreprendre. Donc j'ai fait énormément de progrès et il y a encore une super belle marge de progression. Et c'est ça que j'adore le plus. Oui, j'ai beaucoup de choses à améliorer. Mais je vais les améliorer et je vais apprendre et je vais me former et je vais trouver des nouveaux outils, des nouvelles méthodologies et des nouveaux process, etc. Mais là, pour l'instant, où le bât blesse, on va dire, là où je dois m'améliorer, c'est un, j'adore, j'aime m'organiser, je m'organise à coup de to-do le dimanche soir. Dimanche soir, je me prends 1 heure pour planifier ma semaine, je reprends mon Trello et en fait, je regarde les priorités et du coup je me fais une to-do de 3-4 pages dans mon carnet que je cocherai au fur et à mesure de la semaine et je répartis cette to-do sur des plages sur Google Agenda, ce qu'on appelle le time blocking. Même si j'ai cette organisation-là, au final, j'ai tendance à trop écouter mon humeur changeante. Et donc, je me laisse dépasser par mes émotions, par la charge de travail, pour parfois finir par bosser dans l'urgence et parfois délaisser les délais. Dépasser les délais, pardon. Je réponds aussi tardivement, trop tardivement à mes mails, à mes messages, tant perso que pro d'ailleurs. Hein. C'est pareil, les SMS ou les messages sur Facebook. Et là, mon objectif, c'est vraiment de répondre sous 48 heures. On va y arriver. Le tout, la technique, c'est d'avoir genre une plage définie par jour de 30 minutes où je réponds à mes mails. Je dis trop souvent oui, même si dire oui, ça me permet de pratiquer, etc. C'est trop souvent. Et du coup, je me retrouve avec des nouvelles missions, des nouvelles tâches à faire, et du coup, plus de charges de travail. Et parfois, je me laisse vraiment dépasser par ça. Et j'ai l'impression de ne pas avoir le temps de tout faire de façon qualitative. Donc il faut vraiment que j'apprenne à dire non et à accepter que les choses, que les projets, que les missions qui font sens pour moi. Aussi, je trouve que je pose pas assez de questions et que du coup, en conséquence, j'explique pas assez ce que je fais ou ce que je vais faire à mes clients. Il n'y a pas de questions bêtes, je le sais, mais je trouve que parfois j'ai des questions bêtes qui me semblent bêtes. Mais au final, au moment où je les pose, elles ne le sont pas. Donc il faut vraiment que j'apprenne à poser plus de questions et à expliquer plus ce que je vais faire et ce que je fais. D'un point de vue pédagogique aussi, c'est hyper important de cette pédagogie de leur dire comment on va fonctionner. Et aussi, il faut que je recentre mon activité sur une compétence spécifique. Comme je vous disais, j'ai pas mal de missions, c'est quand même très large ce que je fais. Et pour moi, il est méga difficile d'être qualitatif quand on fait trop de choses, quand on propose trop de services. Donc je vais vraiment recentrer mon activité sur une compétence, on va dire sur un métier spécifique. Et d'ailleurs, Ça fait partie de mes projets en freelance pour cette deuxième année. Je crois qu'aujourd'hui, je suis à un tournant. J'ai deux gros projets, surtout d'ici la fin de l'année 2020. C'est un, de créer ma société, et deux, me spécialiser sur un métier spécifique, comme je vous le disais. Donc, créer ma société, pourquoi ? Non pas que j'ai dépassé le plafond de la micro-entreprise, mais aujourd'hui j'ai l'impression que je peux pas avancer sans investir. Que ce soit investir dans ma communication, dans mes formations, dans des outils, du matériel, et aussi déléguer, notamment une partie de ma communication et de l'administratif. D'ailleurs, j'ai franchi cette étape-là il y a quelques temps de déléguer. Je commence tout juste à déléguer une partie de ma communication et notamment Pinterest parce que j'ai pas le temps de me former à ça parce que y en a qui le font très 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 bien. Et autant que je délègue ça pour avoir du temps sur la valeur que je veux distribuer en tout cas. À vous qui m'écoutez et qui commencez à me suivre. Je sais pas pourquoi déléguer, en fait, j'en rêvais. tout de suite, ça fait, je trouve, un peu plus entrepreneur. Enfin, pour moi. Et d'ailleurs, déléguer, je l'ai aussi franchi pour mes clients, en collaborant avec une autre freelance pour l'un de mes clients, en fait. Mais ce qu'il y a de vraiment chiant quand t'es en micro-entreprise, c'est que tu peux pas sous-traiter à proprement parler. Dans le premier cas, là où je délègue à Lucie une partie de ma communication, c'est que le chiffre d'affaires que je perçois de mes clients, j'en donne une partie à Lucie pour la payer, logique, et l'URSSAF et compagnie, les impôts, ils s'en foutent clairement. Dans le second cas, pour pas, on va dire, à avoir dépensé de l'argent deux fois, je suis obligée d'envoyer deux factures à mon client, donc ma facture et la facture de la freelance à qui j'ai délégué des missions. Donc je trouve que c'est pas du tout professionnel. Et aussi, il faut vraiment beaucoup de pédagogie pour que le client comprenne pourquoi je délègue, qu'est-ce que ça va impliquer dans notre collaboration. Mais en tout cas, quand je délègue, je tiens vraiment à ce que je reste l'interlocutrice, je ne sais plus, je suis perdue, il est tard. Je veux vraiment que je reste l'interlocutrice de mon client et que mon client n'ait pas affaire en fait à la freelance. Je tiens vraiment à ça pour garder une collaboration hyper qualitative, je trouve. Et aussi, à chaque fois que j'achète des choses, genre là, et je pense que ça doit s'entendre là quand vous allez écouter, quand vous écoutez, il y a certainement une résonance, c'est parce que j'ai changé de pièce, j'aménage un bureau plus grand et que pour moi, et donc du coup la pièce est encore très vide et il doit y avoir une résonance. Donc en fait, pour chaque chose que j'achète, un bureau, là, une armoire, un rehausseur, un écran, pour chaque repas aussi que j'ai avec des clients par exemple, pour chaque investissement que je fais sur des outils en ligne ou des formations, je me dis vivement la société pour déduire tout ça, enfin je sais pas le terme, hein, mais enfin voilà. Donc la société, c'est dans les tuyaux. Et j'espère que ce sera pour dans pas très longtemps, peut-être à la rentrée septembre 2020, à voir. Mais créer une société, pour autant, j'ai pas du tout envie d'embaucher. C'est pas dans mes projets, c'est pas ce qui m'attire. J'ai pas envie de créer une agence. Je tiens trop à mon indépendance et je suis bien toute seule. Donc là, premier projet, donc créer ma société. Et deuxième gros projet, comme je vous le disais, c'est vraiment de me spécialiser. Donc ça, c'est vraiment un truc qui me taraude depuis un bon moment. Et encore plus pendant le confinement. Et c'est pour ça que j'ai mis en place cette communication-là, ces podcasts, ces articles, pour justement faire connaître ce tournant dans mon activité et n'avoir plus que des missions de ça. Donc c'est vrai que ça enfume mon cerveau, en fait. Ça ne s'arrête jamais là-haut. C'est fatigant. Je me suis mise à la méditation et je verrai si ça va apaiser mon cerveau. Donc ouais, je suis spécialisée dans un secteur d'activité, certes, qui est la santé. Mais je peux pas continuer à faire autant de missions différentes, qui implique autant de compétences, autant de savoir-faire. Je ne peux pas faire à la fois du community management, de la rédaction web, de la création de sites web, et en plus du community management sur différents réseaux sociaux qui ont leurs codes, qui ont des codes différents. Là, cette première année, c'est vrai que j'ai pris des missions. J'avais envie d'apprendre, de tester, voilà, pour savoir ce qui m'intéressait le plus. J'ai pris les missions. Des missions qui, au final, je me suis rendu compte qu'ils me plaisaient, mais sans plus. Et d'autres, là, j'ai senti qu'il y avait quelque chose. Et justement, ça m'amène à cette compétence que j'ai envie de développer, que j'ai envie de mettre au service de futurs clients. C'est parti de quoi ? C'est parti du constat que les contenus que je crée, comme des articles, comme des posts sur les réseaux sociaux, ont bien souvent un objectif commun qui est d'inviter en fait la cible à naviguer sur le site web pour convertir. Donc voilà, on poste un article, enfin un article a été rédigé, on le poste sur Facebook en espérant que ça clique et que ça arrive sur le site et que ça navigue ensuite sur le site. Mais au final, force est de constater qu'il y a pas mal de sites web, beaucoup de sites web qui ne sont pas vraiment compréhensibles de prime abord et qui n'incitent pas à l'action. Beaucoup de longues phrases, de jargon, de techniques en fonction du secteur d'activité. Et aussi, je peux comprendre qu'on est tellement dans son activité qu'on ne se rend même plus compte que ce qu'on dit, ce n'est pas forcément fluide et compréhensible par tout le monde. Et aussi, ce n'est pas donné à tout le monde d'avoir des compétences d'écriture et de comment s'adresser à sa cible. Je suis partie de ce constat-là. Pourquoi écrire des articles et créer des contenus sur les réseaux sociaux qui renvoient vers le site web et qu'au final, le reste du site web n'est pas hyper qualitatif et n'invite pas l'utilisateur à faire confiance et à passer à l'action. En parallèle de ce constat, je pense que c'est la loi de l'attraction. Fin décembre 2019, je crois que c'était fin décembre, ou enfin bref, fin d'année 2019, j'ai découvert l'UX Writing. Et je dois dire que ça a fait un petit boom, même un gros boom, dans mon petit cœur et dans mon esprit. Et ça répond parfaitement à ce que j'ai envie de faire. Ça répond à cette problématique de site web pas forcément compréhensible et pas forcément utile en fait aux cibles. Et ça répond aussi à mon envie d'écrire et justement d'être utile, d'avoir un métier utile. J'ai vraiment envie de redonner du sens au site web. Au lieu d'en créer un par défaut comme tout le monde, mieux vaut avoir un site qui est compréhensible et qui est vraiment utile pour vos cibles, qui vont pouvoir s'en servir réellement. Donc rendre utile votre cible en apportant une réelle valeur à vos cibles et aussi le rendre utilisable en facilitant la navigation, en simplifiant pour rendre compréhensibles les messages et en les invitant à l'action. Que ce soit inscription à une newsletter, vendre un service, un produit ou demander un devis. Je pense que je ferai un sujet, un article complet sur le sujet, sur le UX writing. C'est peut-être fortement un nouveau terme, un nouveau métier à la mode. C'est vrai qu'on a tendance à mettre des user experience un peu partout. Donc le terme UX de UX writing, donc on a UX designer notamment, enfin... On le met un peu à toutes les sauces, mais l'UX writing, c'est surtout définir vos messages et votre voix, la façon dont vous allez passer les bons messages en fonction de vos objectifs et des besoins de vos cibles. Donc pour définir vos messages et votre voix, ça passe par la définition de l'identité de marque, de votre identité de marque, si ce n'est pas déjà fait. Et souvent, on ne prend pas le temps de définir clairement son identité de marque, qui est de connaître votre pourquoi. Donc je vous renvoie à l'épisode de podcast que j'ai enregistré avec Thomas Birdbeach sur comment trouver son pourquoi. Définir l'identité de marque, c'est aussi définir votre mission, vos cibles, vos valeurs, votre positionnement, votre ton, les mots à privilégier et à bannir dans votre communication, etc. Je ne vous fais pas tout le tour, je reviendrai largement là-dessus dans un autre épisode. Et dans le jargon, en fait, c'est ce qu'on appelle la définition du tone of voice. C'est une étape hyper utile pour harmoniser l'ensemble de votre discours, de communication et aussi vos discours commerciaux. Tout le monde qui s'exprimera au nom de l'entreprise aura un discours cohérent, semblable et aligné avec ce que vous faites, aligné avec votre pourquoi, votre mission. Et donc ça, c'est la première étape de l'UX Writing. Et la seconde, c'est d'écrire les contenus de votre site web ou de votre application. Que ce soit des pages, des fiches produits, des micro-contenus qui vont vraiment orienter et favoriser l'action, l'utilisabilité, il est compliqué ce mot, pour naviguer sur votre site et pour passer à l'action. Et le tout, donc définir vos messages et votre voix, écrire les contenus de votre site web ou de votre application, c'est pour avoir une plateforme, un site web, une appli qui est compréhensible, concise et utile. Donc en fait, pour le moment, ce métier de UX Writer, il est plutôt rare en France. On le retrouve généralement dans les grandes entreprises comme Slack, comme Google, comme Dropbox, comme Booking. J'avais entendu dire qu'ils étaient 10 UX Writers là-bas, waouh. Et de mon côté, je veux vraiment rendre cette compétence accessible à tous. Je ne me ferme pas du tout aux grosses entreprises, aux groupes, parce que c'est hyper formateur. Mais j'ai vraiment envie de mettre cette compétence au service de tous. Enfin, de tous. Il faut que je définisse ma cible. Parce qu'il y a quelques 1,7 milliard de sites web dans le monde. Bon, vous ne vous adressez pas du tout au monde entier, mais voilà, je n'ai pas les chiffres en France. Mais voilà, se démarquer dans cette jungle, ça passe d'abord par un site orienté utilisateur. L'utilisateur, il faut qu'il comprenne ce qu'il va y trouver. Et un site qui va lui donner envie de vous faire confiance et de passer à l'action. Depuis trop longtemps, on fait passer la technique et l'aspect esthétique d'un site web, d'une application, avant les contenus. On fait passer la forme avant le fond. Et souvent un coup de multiples pages et fonctionnalités qui ne servent pas vraiment en fait. Mais c'est pas la forme qui va vous aider à développer votre chiffre d'affaires ou à créer une communauté qui va convertir votre cible. Je veux vraiment maintenant prendre ce genre de mission, accepter ce genre de mission, travailler sur ce genre de projet. J'adore, là j'ai eu une première mission là-dessus avec une formatrice et j'ai adoré le fait de creuser son identité, sa mission, sur pourquoi elle fait ce qu'elle fait, sur ses valeurs, sur son positionnement, les cibles, les personas qu'on a fait. La différenciation, ça permet vraiment pour moi de connaître son métier et elle de faire un point et vraiment de définir son identité de marque et du coup d'opter pour une voix cohérente avec ce qu'elle est et ce qu'elle fait et pour des messages cohérents et alignés avec ce qu'elle est et ce qu'elle fait. Je sais que je veux travailler sur des missions du UX Writing, même si j'aime pas utiliser ce terme-là qui est anglophone. Et qui n'est pas compréhensible par tous et qui au final est compréhensible par peu de monde et je dois aujourd'hui beaucoup l'expliquer, mais en tout cas travailler sur cette identité de marque, sur le tone of voice en fait et d'écrire les contenus, un discours en fait sur le site web hyper aligné avec ça et pour faire en sorte que le site soit compréhensible, concis, utile. Donc voilà, j'ai beaucoup parlé. J'ai mis du temps à écrire et à enregistrer cet épisode, mais ce temps a été nécessaire pour que je puisse prendre du recul et faire mon bilan, qui est forcément positif, et les projets que j'ai. Donc là, c'était vraiment les deux gros projets, créer ma société et me spécialiser en UX Writing, même si j'ai plein de petits autres projets. Mais voilà, c'est vraiment mes deux gros objectifs d'ici à fin 2020. C'est des projets qui m'animent. Clairement, c'est ce que j'aime d'ailleurs dans le fait d'entreprendre, c'est l'apprentissage, c'est l'évolution chaque jour, c'est une construction totale de sa vie, pas que pro, mais aussi perso, parce que pour moi les deux sont liés, je veux que les deux soient liés pour pouvoir m'épanouir et m'accomplir. Et j'adore les projets, les nouveaux projets. J'ai plus forcément envie d'avoir des missions super long terme, un an et demi. J'ai vraiment envie de découvrir des nouveaux univers, des nouvelles personnes, Donc, des projets plutôt one shot, même si ce sera sur quelques mois. Enfin voilà, c'est vraiment ce qui m'anime le plus, qui m'enthousiasme le plus. Et forcément travailler sur des missions et avoir un travail qui fait sens pour moi. Me lancer en freelance, ça a été la meilleure décision de ma vie, que j'ai prise au final de façon très sereine. Car je sais que si je veux, je peux. Même si parfois la procrastination me tend des perches. Voilà, je sais que si je veux, je peux. Au bout d'un mois, je savais que c'était ça ce que je voulais faire, entreprendre et avoir cette liberté-là. Au bout d'un mois, c'était comme si j'avais été toujours freelance. Et pour rien au monde, je lâcherais cette source d'épanouissement. Donc la deuxième année m'attend, c'est parti. Et c'est un super beau chemin justement qui m'attend. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. Je vous encourage vivement à faire un bilan, au moins chaque année de votre côté, à une date qui fait sens pour vous. Moi, c'était les 1 an de mon entreprise, c'était pas la nouvelle année, voilà, c'était les 1 an. C'est un bilan qui permet vraiment de prendre du recul, de continuer ou alors de vous orienter vers une nouvelle direction, dans une nouvelle direction qui fait vraiment sens pour vous. Donc, je serais ravie d'avoir votre retour sur ce que j'ai pu vous partager, ou alors si vous avez fait aussi votre propre bilan de votre côté et ce que vous en avez retiré. Donc que ce soit en commentaire sur le blog, en dessous de cet épisode de podcast, sur Instagram ou LinkedIn, sur lesquels j'essaye d'être présente tant bien que mal et de façon plus ou moins régulière, ou en message privé ou par mail directement, à votre aise, comme vous voulez. N'hésitez pas non plus à me poser des questions, à me demander des sujets que je pourrais aborder ici, donc toujours orienté site web et contenu, hein, comme je vous ai parlé. Parce que si je fais ces épisodes et ces articles, et je le répète à chaque fois, c'est avant tout pour vous aider à avoir un site vraiment utile pour vous et pour vos cibles. Si vous avez aimé l'épisode, du coup, n'hésitez pas à le faire savoir, à me le faire savoir en likant ou en mettant une note sur la plateforme sur laquelle vous écoutez ce podcast. Et puis, quant à moi, je commence à avoir une voix rocailleuse, mais c'était vraiment très, 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 très chouette de partager ça avec vous. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de podcast. Allez, ciao!